Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité Santé, Igor Strauss.
Bonjour à tous. Vous le savez, chacun de nos organes remplit ses propres fonctions indispensables à l'équilibre du corps. Mais si certains, comme le cœur ou le cerveau, sont placés au sommet d'une hiérarchie symbolique de l'organisme, d'autres tout aussi indispensables restent pourtant dans l'ombre. C'est le cas de nos reins, petits organes en forme de haricots, bien cachés sous les côtes qu'on a tendance à négliger. Et oui, comment s'intéresser à des organes que l'on ne peut ni voir ni toucher ? C'est généralement au moment où leur fonction est en berne qu'on réalise qu'ils sont tout absolument indispensables. Pourtant, eh bien, sans forcément le savoir, plusieurs fois par jour, nous vivons le miracle de nos reins, nous urinons sans avoir conscience que cet acte nécessite que les rouages de la miction soient bien huilés. La façon dont nous urinons est un élément fondamental de notre qualité de vie et peut avoir des conséquences importantes sur notre santé. Irritation, brûlures, fuites urinaires, certains symptômes sont parfois aussi simples à traiter qu'intolérable à supporter, mais il n'est pas toujours évident d'en parler, certains tabous restent tenaces. Et comme nous avons tendance à nous habituer à certaines dérives et à trouver normal des situations inhabituelles, nous ne parvenons pas toujours à reconnaître les signes qui montrent qu'ils sont en souffrance. Alors comment prévenir les troubles et maladies liés à la fonction rénale ? Quels sont les signes qui doivent nous alerter ? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre invité, le professeur Corinne Isnard-Bagnis, chef de service adjoint dans le service de néphrologie de l'hôpital Pitié-Salpêtrière et professeur de néphrologie à la Sorbonne à Paris, auteur de l'ouvrage « Miction impossible, prenez soin de vos reins, ils vous le rendront bien » aux éditions du Rocher. Et nous serons également en ligne avec le docteur Soumaïla Diawara, néphrologue à la polyclinique Guindo, c'est à Bamako, au Mali. Et à la fin de cette émission, alors qu'un panel d'experts vient d'approuver le protocole des essais cliniques de phytothérapie contre la Covid-19, nous ferons le point sur ces essais avec le professeur Jean-Baptiste Nikiema, chef d'équipe sur les médicaments, technologies, infrastructures et équipements de santé au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Voilà pour le programme. Priorité Santé, bienvenue.
Priorité Santé sur RFI.
Professeur Corinne Isnard-Bagnis, bonjour.
Bonjour Igor, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Alors comment expliquez-vous qu'en 2020, nos reins, hein, ce duo discret et besogneux, essentiel à notre bien-être, reste méconnu alors que près de 850 millions de personnes dans le monde bien souffrent d'affections rénales?
Je crois que c'est tout à fait ce que vous avez dit en introduction, c'est que les reins travaillent très discrètement, finalement, et quand tout va bien, on n'est pas du tout attentif à ces fonctions d'élimination de l'urine, et on commence vraiment à s'en rendre compte quand souvent les reins sont déjà très malades ou qu'on a des symptômes très avancés. Mais je pense que c'est vraiment la raison majeure. Nos reins sont discrets, ils travaillent en back office, ils font le job, et quand tout va bien, on n'a pas beaucoup de moyens finalement de s'en inquiéter. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un peu d'informations sur ce sujet. Je vous remercie de nous avoir invités pour en parler.
Je vous en prie, justement, j'allais dire, faisons un petit peu de pédagogie, plaçons les reins au centre de nos préoccupations. Quel rôle, et là c'est au pluriel, hein, quel rôle jouent-ils ces reins?
Alors, on a tendance, et c'est aussi peut-être un élément important, à présenter toujours les reins comme les grands éboueux, ceux qui nous débarrassent.
Les égoutiers, dites-vous dans le livre.
Égoutiers. Moi, je suis déçue qu'on réduise en fait les reins à ce rôle-là, parce qu'en fait, nos reins nous permettent, en adaptant en permanence ce que le corps va éliminer par les urines, de nous adapter à toutes les conditions de vie. Si vous vivez dans un pays chaud, et on en reparlera peut-être avec nos collègues du Mali tout à l'heure, vous allez avoir besoin de garder plus d'eau, plus de sel, parce qu'il fait chaud à l'extérieur et que votre corps en aura besoin. Ce sont les reins qui vont vous permettre de vous adapter aux conditions extérieures. Donc en quelque sorte, bien sûr, les reins éliminent ce dont on n'a plus besoin, mais surtout, ils ont cette fonction super intelligente de s'adapter à votre environnement et d'éliminer purement et simplement ce dont vous n'avez plus besoin en fonction de la façon dont vous vivez. Si vous avez fait du sport, vous avez transpiré, vous avez mangé, vous avez plus ou moins bu, les reins, ils s'adaptent à tout ça. Et puis, ils ont plein d'autres fonctions. Ils interviennent très largement dans le contrôle de la pression artérielle. Ils sont très liés au fonctionnement cardiaque. Ils interviennent dans le maintien de la quantité de globules rouges, c'est-à-dire de l'oxygénation du sang. Quand on a une maladie rénale sévère, on a une anémie, c'est-à-dire on a moins de globules rouges. Ils interviennent dans la santé de votre squelette, d'une certaine façon, en permettant à la vitamine D d'être active. Donc en fait, les reins, ils interviennent dans beaucoup de paramètres de la santé du corps et pas seulement pour éliminer les poubelles.
C'est ça, on dit que les reins sont les chefs d'orchestre de l'homéostasie du milieu intérieur. En gros, ils permettent de maintenir un fonctionnement normal, quoi qu'il advienne, c'est ça ?
C'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre à travers ce mot un peu compliqué, c'est que l'ensemble des cellules de l'organisme, pour fonctionner, elle doit être dans un environnement plutôt stable. Il faut qu'il y ait suffisamment de sucre, de calcium, de potassium, la température, l'acidité du milieu dans lequel sont nos cellules doit être stable. Or, nous, êtres humains, nous sommes pas dans un environnement stable. Comme
on l'a dit. Jour, on mange très salé, le lendemain, on ne mange pas du tout.
Exactement.
Après, il fait chaud, après, il fait froid.
Donc, l'homéostasie, c'est de pouvoir maintenir un environnement stable pour que nos cellules puissent fonctionner normalement. Et les reins sont des grands acteurs, pas les seuls, mais les grands acteurs de cette fonction.
Pourquoi faut-il faire attention à notre consommation de sel ? On parlait du sel, par exemple.
Oui. La consommation de sel, elle est surtout importante aujourd'hui dans la santé parce qu'elle est très très liée à la survenue d'une hypertension artérielle. Et elle est aussi très importante, c'est un vrai sujet pour nous aujourd'hui, parce que si on consomme des produits déjà préparés, qui sont fournis par l'industrie agroalimentaire, c'est un exhausteur de goût. Le sel, ça donne du goût à vos aliments, ça vous rend content de manger ce que vous avez dans votre assiette, et ça vous donne envie d'en manger davantage. Donc en fait, on met beaucoup de sel dans les produits préparés. Et du coup, souvent, notre palais est habitué, dans les pays où on mange beaucoup de produits tout préparés, où on mange beaucoup à l'extérieur, où on consomme beaucoup des sandwichs ou des choses qu'on achète en ville à l'heure du déjeuner, eh bien, on consomme énormément de sel et notre palais s'adapte à l'idée de manger 15, 16, 18 grammes de sel, ce qui est très délétère à moyen terme pour la pression artérielle. Ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas forcément besoin de manger autant de sel. On pourrait en manger beaucoup moins. D'ailleurs, les recommandations internationales nous fixent plutôt une cible autour de 6 à 8 grammes de sel par jour, ce qui est finalement probablement pas tellement la cible obtenue chez la majorité de nos concitoyens. Et en tout cas, on peut adapter notre palais. Notre palais peut s'habituer à manger moins salé et trouver toujours du goût et du plaisir à manger nos aliments. Donc on peut modifier nos comportements alimentaires à propos du sel et du coup être en meilleure position par rapport au risque de l'hypertension artérielle.
Alors, vous parliez d'hypertension artérielle, on pourrait également parler de diabète, de maladies chroniques en constante augmentation dans le monde entier. Mm-hmm. Quels sont justement ces liens entre diabète et affection des reins? On a compris un petit peu hypertension, mais diabète et problème de reins, rénaux.
C'est très important. On parle pas beaucoup des maladies rénales, mais en fait, les deux principales situations dans le monde entier aujourd'hui qui peuvent rendre les reins malades sont en effet le diabète et l'hypertension. Et comme le diabète et l'hypertension sont des pathologies chroniques excessivement fréquentes dans tous les pays du monde, eh bien entendu, les conséquences sur les reins commencent à devenir majeures et sont souvent assez méconnues finalement du public, alors même que on connaît beaucoup de choses sur l'hypertension et sur le diabète, on en entend parler beaucoup plus.
Bien sûr. Est-ce qu'il faut s'inquiéter vu l'explosion de ces maladies chroniques, s'inquiéter pour la santé de nos reins finalement?
Alors, s'inquiéter, c'est sans doute jamais très bon de se faire du souci, mais en tout cas, être conscient, être informé, donc c'est ce que vous contribuez à faire dans cette émission, être au courant qu'on est à risque quand on est traité pour une hypertension ou qu'on est traité pour un diabète, simplement savoir qu'il faut sans doute vérifier avec son médecin comment fonctionnent les reins et s'ils souffrent ou non du diabète ou de l'hypertension, ça oui, par contre, c'est très important.
Alors, de nombreux auditeurs souhaitent vous poser des questions, docteur. On va prendre une première auditrice, c'est Evra qui est au Congo, Brazzaville. Bonjour Evra.
Bonjour.
Et c'est un auditeur d'ailleurs. Nous vous écoutons Evra.
Oui, voilà, je vous ai suivi. J'ai été consulté à cela 2 semaines dans une clinique. Et le docteur m'a fait une goutte épaisse, ensuite m'a recommandé un examen des urines. Le lendemain, j'ai déposé les urines, parce que ce sont des urines matinales qu'il faut déposer. Je les ai déposées. Ensuite, l'après-midi, je suis passé prendre les résultats. Et lorsque je suis passé prendre les résultats, le docteur m'a dit que qu'il m'a retrouvé avec une infection urinaire, que j'ai une urine très jaunâtre, poussée. Voilà, il m'a dit que c'est une infection quand même sérieuse, dont il avait dit le nom, c'est la cystite. Voilà. Ensuite, il m'a prescrit une ordonnance, que, un produit que j'ai dû acheter. Je crois que c'est la stérine ou stérine comme ça, si j'ai bonne mémoire. Ensuite, je suis passé à la pharmacie pour acheter ce produit. Je l'ai pris. Et le docteur m'avait dit, une fois que le traitement finit, je dois attendre 10 jours pour repartir au contrôle. Donc là, j'attends les 10 jours afin que je repars au contrôle. Mais sinon, que l'urine n'a pas... comment je vais dire ça? La couleur jaunâtre de l'urine a quand même baissé un peu, mais elle n'est pas totalement, elle n'a pas totalement disparu. Donc, j'aimerais poser des questions. À quoi est déjà dû la cystite et quelles sont les conséquences et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en prévenir?
Écoutez, ce sont d'excellentes questions, Evra. Et je vais tout de suite donner la parole au professeur Corinne Isnarbanis qui va vous répondre.
Bonjour et merci de votre intervention. Alors, d'abord, est-ce que je peux vous poser une question par rapport aux symptômes que vous avez eus qui vous ont amené à consulter?
Je n'ai pas eu de symptômes directs. C'était une consultation, en fait. C'était une clinique qui faisait une campagne. Moi-même, je ne me rendais même pas compte. Donc, on m'a abordé dans la rue et puis je me suis dit, non, je me fais consulter, on ne sait jamais.
D'accord. Donc, vous n'avez pas eu ni brûlure en urinant, ni fièvre, ni aucun symptôme particulier?
Non, non, non. Mais pendant la goutte épaisse, le médecin m'avait trouvé avec du palu. Un léger palu, il m'avait dit.
D'accord. Alors, je vais essayer de répondre à vos questions. D'abord, sur la couleur de l'urine et le fait qu'elle soit foncée ou pas, il y a deux réponses. La première, c'est que la couleur des urines, quand on est en bonne santé, elle est essentiellement liée à la quantité d'eau ou de liquide que vous buvez dans la journée. Si vous buvez très peu, les urines vont être concentrées et elles vont être plus foncées. Si vous buvez beaucoup, on peut avoir des urines qui sont très claires jusqu'à être presque transparentes comme de l'eau. Le deuxième élément, c'est que quand on a une crise de paludisme, le parasite, il casse certains des globules rouges et du coup, ça peut donner une petite couleur un peu plus foncée à nos urines. Donc peut-être que la couleur de vos urines en ce moment, c'était aussi peut-être un petit peu dû à cette infection par le paludisme qu'on a dépisté chez vous. Et le troisième élément de réponse, c'est que... La cystite, c'est un terme qu'on utilise plutôt normalement pour décrire les infections urinaires des femmes, sans autre complication. Chez l'homme, si vraiment c'est une infection urinaire que vous avez, mais alors là, j'ai pas les éléments en détail, mais...
Il s'agit pas de faire des consultations radiophoniques, bien évidemment, voilà. Uniquement des conseils.
Mais juste pour dire, en général, l'infection urinaire chez l'homme, on appelle plutôt pas ça une cystite, mais enfin ça, c'est une question de terminologie, c'est pas très grave. Mais autant chez la femme, on peut se dire que c'est assez banal parce que l'urètre, qui est la partie du canal qui va de la vessie à l'extérieur du corps, est très très court. Et donc en fait, les bactéries qu'on porte tous sur la peau, qui sont normales, hein, bien entendu, le corps n'est pas stérile, elles peuvent plus facilement remonter à travers ce petit canal et aller dans la vessie. Donc chez une femme, s'il y a une petite infection urinaire, c'est pas forcément un événement pour lequel on va faire des examens complémentaires. Mais si vraiment vous, avec votre médecin, vous avez constaté qu'il y avait une infection urinaire chez un homme, souvent ça nécessite quand même qu'on fasse au moins une échographie des reins, peut-être un peu plus d'examens, pour essayer de comprendre pourquoi, parce que c'est moins fréquent et moins banal d'avoir une infection urinaire chez l'homme.
Voilà, on va vous remercier, Evra. J'espère que les explications et les conseils du docteur Isnarbanis vous seront utiles. Merci à vous et bonne journée au Congo-Brazzaville. On continue avec les infections urinaires. Justement, vous parliez de cystite pour les femmes. On sait que ce sont plus de 150 millions d'épisodes par an dans le monde. 15% des antibiotiques consommés dans le monde sont dédiés à contrôler une infection urinaire. Des chiffres considérables. Comment l'expliquer finalement, docteur Isnarbanis?
Alors, il est clair que quand on a déjà eu une cystite, on comprend mieux quel est le problème. Si brutalement, en l'espace d'une heure ou deux, vous avez très très mal dans le bas-ventre, que vous êtes obligé d'aller faire pipi toutes les 5 minutes, que ça vous brûle comme si vous aviez vraiment, vous uriniez des lames de rasoir, eh bien, tout simplement, vous ne pouvez pas faire grand-chose dans la journée. Vous ne pouvez pas aller travailler correctement. Vous ne pouvez peut-être même pas faire vos activités quotidiennes. Donc, c'est une situation qui va demander immédiatement un avis médical. Les femmes ont besoin qu'on... Ou souvent, d'ailleurs, elles vont à la pharmacie parce qu'on ne peut pas avoir son médecin forcément dans les 2 heures pour le consulter. C'est parfois compliqué. Elles peuvent aller aux urgences. Et ça aboutit finalement à des arrêts de travail. Ça aboutit à des traitements antibiotiques parce que c'est le seul traitement qu'on connaisse qui puisse calmer les symptômes, tout simplement.
Alors qu'il ne faudrait pas forcément, avec les risques de résistance aux antibiotiques, on pourrait adopter d'autres méthodes de traitement ?
Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, les spécialistes de l'infectiologie nous alertent tous les jours sur le risque de l'usage, on va dire, excessif ou inconsidéré des antibiotiques, puisque si vous donnez des antibiotiques dans des situations qui ne sont pas strictement indispensables, eh bien, vous avez un impact quand même très fort sur l'augmentation des résistances des bactéries aux antibiotiques. Et on sait bien aujourd'hui que les nouveaux antibiotiques sur le marché sont assez peu nombreux et que le risque auquel on s'expose, c'est que à moyen terme, on soit dans des difficultés pour soigner des infections liées à des bactéries. Je rappelle qu'aujourd'hui, avec la crise du Covid et du SARS, on est plutôt sur une réflexion autour des virus. Mais il faut quand même pas oublier que le traitement des bactéries par les antibiotiques est assez récent dans sur notre planète finalement. Ça a quelques dizaines d'années presque. Il y a 2 siècles, on n'avait pas d'antibiotiques et on mourait d'infections bactériennes. Donc on n'a pas envie que ça recommence en ayant épuisé un petit peu nos cartouches et en ayant épuisé la sensibilité des bactéries aux antibiotiques. Donc c'est un sujet vraiment très important d'utiliser le mieux possible les antibiotiques, c'est-à-dire seulement quand on ne peut pas faire autrement.
Comment expliquer ces nombreuses cystites? C'est aussi un problème de manque d'hygiène dans les toilettes qu'on utilise?
Alors, pas du tout, et c'est génial que vous mettiez ça sur le tapis, c'est-à-dire qu'on n'attrape pas une cystite. Alors, si on parle de l'infection urinaire banale de la femme, on n'attrape pas une cystite parce qu'on a fait pipi dans un endroit pas propre. On n'attrape pas une cystite parce qu'on a eu un rapport sexuel avec une personne qui était infectée de quelque chose ou pas propre. On attrape une cystite parce qu'on est porteur de germes sur la peau, ce qui est normal, parce que le canal entre l'extérieur du corps et l'intérieur de la vessie est court, et parce que une grande partie des moyens de défense de notre corps contre les cystites, c'est de laver la vessie en allant faire pipi. Donc en fait, un des moyens majeurs de se protéger des infections urinaires, c'est de boire. Mais pas seulement, c'est de boire et d'aller faire pipi. Parce que si vous buvez et que vous n'allez pas faire pipi, ça marche pas.
Combien de litres faut-il boire par jour? On va donner des conseils pratiques à nos auditeurs et auditrices. Ouais. Et quelle est la norme? Combien de fois faut-il aller aux toilettes? Et quand est-ce que ça devient trop finalement?
Ouais. Alors, c'est très difficile de donner des conseils qui marchent pour tout le monde. Puisque
parce qu'on
ne boit
pas la même quantité, évidemment.
Voilà. Si on vit à Paris, où il fait aujourd'hui pas très chaud, et si on boit... D'abord, on a quelque chose de très important à rappeler, c'est que le corps est merveilleusement organisé, pour répondre à cette question, avec la soif. La soif est excessivement sensible, et il faut d'abord écouter sa soif. C'est-à-dire que le corps est là pour vous tirer la sonnette d'alarme quand vous n'avez pas bu assez et vous dire ce serait bien d'aller boire quelque chose. Il y a des situations dans la vie où on sent moins sa soif, et ça concerne principalement, on va dire, le grand âge ou les personnes âgées qui en effet peuvent perdre la soif. Après donc leur sensation de soif est moins importante, et souvent chez les gens âgés, il faut les stimuler un petit peu pour penser à boire parce qu'ils n'ont pas spontanément soif. Après évidemment, il y a des maladies où il y a des situations pathologiques qui peuvent altérer le sentiment de soif. Mais en pratique, le corps est assez bien prévu pour ça. Mais sinon, la quantité qu'on doit boire dans la journée, évidemment, elle dépend de la chaleur de l'environnement dans lequel on vit. Il faut sans doute boire plus au Mali qu'à Paris. Il faut sans doute boire plus si on fait du sport. Il faut sans doute surtout, et ça on le sait moins, boire plus si on a la diarrhée, si on vomit, si on mange pas. Et puis après, le deuxième élément, c'est que ce que l'on boit, pour que les urines ne s'infectent pas, il ne faut pas qu'elles stagnent. Donc en fait, il faut aller faire pipi. régulièrement. Et là, on rentre dans une discussion qui est un peu complexe, puisque pour aller faire pipi, si on pense au travail, par exemple, beaucoup de personnes sont dans des conditions professionnelles où ils osent pas s'arrêter de travailler, ils se retiennent, ou ils ont pas la possibilité de prendre une pause pour aller faire pipi quand ils veulent. Et donc, en fait, dans la vie de tous les jours, ou bien vous faites un long trajet en voiture, vous faites un long trajet en train, vous n'avez pas envie d'utiliser des toilettes publiques, ça c'est un problème majeur. Vous savez que dans
Dès le plus jeune âge, les enfants n'osent pas aller à l'école, donc ils se retiennent, ou inversement se forcent à y aller avant pour ne pas avoir à y aller en classe.
Vous savez que j'ai découvert des choses incroyables en écrivant ce livre, c'est-à-dire qu'il y a une journée nationale des toilettes, il y a quand même des millions de gens dans le monde qui n'ont pas de toilettes dans leur lieu de vie. Il y a des millions de gens dans le monde qui n'ont pas accès à des toilettes propres. Enfin, c'est quand même assez incroyable de se rendre compte qu'on vit dans un monde dans lequel, pour des besoins aussi simples que d'uriner, qui reviennent quand même plusieurs fois par jour dans la vie et qui sont essentiels, eh bien, les sociétés ne sont pas organisées pour offrir à leurs concitoyens des lieux pour pouvoir uriner dans les bonnes conditions. Et donc, c'est ahurissant de voir ça.
C'est vrai que c'est complètement ahurissant. Docteur, professeur Isnar Banis, ouais. On va marquer une petite pause en musique et puis après, on sera en ligne avec Mamadou et Jean-René qui patientent au standard. On est désolé, on vous reprend juste après la musique.
Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Daoyami, alikolana, busowami, aukolana, ilondoloze, zuhambenami. Daoyami, alikolana, busowami, aukolana, ilondoloze.
Master KG, Jérusalema, dans Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons des maladies rénales avec le professeur Corinne Isnar-Banis, chef de service adjoint dans le service de néphrologie de l'hôpital Pitié-Salpêtrière et professeur de néphrologie à la Sorbonne à Paris, auteur de l'ouvrage « Miction impossible, prenez soin de vos reins, ils vous le rendront bien ». C'est aux éditions du Rocher. Chose promise, chose due, on va tout de suite donner la parole à Mamadou qui a patienté au stand. Excusez-nous, Mamadou, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, Mamadou. Nous vous écoutons. Quelle est votre question?
Merci. Alors, je vais peut-être décrire un peu le problème que j'ai.
Allez-y.
Ça fait depuis bientôt 5 ans que je souffre d'infection urinaire. À chaque fois qu'on me fait faire des examens, on me prescrit des antibiotiques que je prends. Le vrai problème est que quelques mois après, ça revient. C'est-à-dire que j'ai des brûlures mixtionnelles qui reviennent quelques mois après la prise des antibiotiques. Donc, j'aimerais bien poser la première question à docteur pour savoir comment on peut expliquer cela.
Posez toutes vos questions et ensuite le professeur vous répondra d'un coup.
Très bien. La deuxième question est que est-ce que cette infection urinaire que je vis actuellement peut avoir des conséquences sur mes reins? Parce que jusque-là, les médecins m'ont fait savoir que non, que mes reins ne sont pas touchés, mais à vrai dire, j'ai pas confiance parce que voilà, j'ai souvent de petites douleurs au niveau des côtés, juste en dessous des côtes. Voilà, j'ai des picotements en fait à ces niveaux-là. Donc, j'aimerais comprendre ce qui se passe exactement. Tout dernièrement, on m'a fait faire des examens. J'ai fait un écho Doppler scrotal qui s'est avéré négatifs, mais ils ont remarqué qu'il y a des kystes simples, épididymaires et bilatéraux.
Eh bien, écoutez, Mamadou, je vais tout de suite donner la parole au professeur Corinne Isnarbanis qui va tenter de vous répondre. Et je rappelle encore une fois qu'il ne s'agit pas de consultation radiophonique, uniquement des conseils.
Merci beaucoup Mamadou pour votre témoignage. C'est un sujet très important que vous abordez et donc merci d'en parler. Ce que je pourrais dire, c'est que pour que les urines s'évacuent normalement et qu'on n'ait pas... Normalement, quand on fait pipi, ça doit être facile, indolore, et on doit pas avoir de symptômes particuliers. Quand ça se passe pas comme ça, et qu'on est jeune comme vous l'êtes, puisque j'ai compris que vous aviez 36 ans, c'est que peut-être il y a un problème dans l'évacuation des urines. Donc ce que vous décrivez, en fait, les urines, elles s'infectent principalement quand elles peuvent pas s'évacuer normalement et qu'elles sont... retenue dans l'appareil urinaire. Donc, une des choses vraiment importantes qu'il faut explorer, c'est est-ce que votre appareil urinaire est normal? Est-ce que les reins, les tuyaux qui vont des reins à la vessie, est-ce que la vessie elle-même, est-ce que tout ça fonctionne normalement? Et l'interlocuteur, le médecin qui peut vous aider à avancer sur des sujets comme ça, c'est vraiment l'urologue. Alors, ou le néphrologue peut aussi avoir une réflexion avec vous là-dessus, mais on doit vraiment faire des examens pour vérifier que votre appareil urinaire est normal. Parce que, en effet, comme vous l'avez dit, sinon, quand on trouve l'infection urinaire, évidemment, on va la traiter par des antibiotiques, mais vous avez constaté vous-même que ça revient. Et donc, ce qui est très important, c'est de trouver la cause et d'essayer de voir si on peut traiter la cause de cette infection. Parce que, comme vous le soulignez aussi très justement, aujourd'hui, la fonction de vos reins, vous avez été rassuré par vos médecins qui ont regardé sans doute dans vos analyses et qui vous ont dit que les reins n'étaient pas touchés. Mais comme vous êtes très jeune, et il faut pas que cette situation persiste pendant des années, car à la fin, ça pourrait avoir un impact sur la fonction de vos reins. Donc, c'est un sujet très important de parler de ce genre de symptômes et d'aller faire, si on peut, des explorations pour vraiment essayer de comprendre pourquoi vous faites des infections urinaires, parce que ce n'est pas normal.
Eh bien, écoutez, j'espère que toutes ces explications sont claires pour vous, Mamadou. En tout cas, très bonne journée à vous à Ouagadougou et merci de nous avoir appelés. Et de Ouaga, on va partir à Niamey, accueillir Jean-René. Bonjour, Jean-René. Éloignez-vous de la radio, Jean-René, parce qu'il y a retour. Je m'entends dans votre poste de radio qui est derrière vous.
Ah, d'accord. Est-ce que ça va maintenant?
C'est beaucoup mieux. Nous vous écoutons, Jean-René.
Ok. Bon, moi, j'ai vu une situation, il y a de cela un mois. Moi, j'ai fait beaucoup de missions nocturnes. Je peux aller 4 à 6 fois la nuit aux toilettes. Bon, j'ai consulté le médecin. Il m'a mis sur sudipropane. Jusqu'à présent, j'ai continue à y aller déjà 3 à 4 fois. Donc, il y a une légère diminution. Mais seulement, je constate que ma consommation excessive en eau durant la journée, c'est ça qui provoquerait toutes ces mixtions. J'ai un souci maintenant, docteur. J'aimerais savoir quelles sont les éventuelles complications si ça persiste comme ça avec la prise de ditropan. Ou qu'est-ce qu'il faut comme palliatif pour moi?
Le ditropan, c'est un médicament antispasmodique, c'est bien ça,
c'est ça.
Professeur Isnarbanis. Mm-hmm. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre à Jean-René?
Merci Jean-René pour le partage de vos soucis actuels. Ce qu'on pourrait dire à Jean-René, c'est que souvent quand on a des problèmes pour faire pipi ou qu'on se lève souvent la nuit pour faire pipi, on a comme réaction de vouloir moins boire. Parce que si on boit moins, on va moins uriner, évidemment. Ça, évidemment, ça a un impact. C'est intéressant pour le confort immédiat, mais ça ne résout pas le problème. Donc, j'aurais envie de vous dire un petit peu, comme j'ai dit tout à l'heure, que il y a certainement quelque chose qui fonctionne pas tout à fait bien dans votre appareil urinaire. Alors, est-ce que c'est la vessie, est-ce que c'est la prostate? Si votre médecin vous a proposé éventuellement d'aller faire d'autres examens, je pense qu'il va falloir le faire pour essayer encore une fois de comprendre quelle est l'origine de ces difficultés, pourquoi vous faites souvent pipi la nuit. Et en effet, c'est simplement quand on aura réussi à comprendre pourquoi qu'on pourra vous donner un traitement vraiment adapter à la situation et résoudre vos symptômes. Donc, je vous engage vraiment à continuer ce que vous avez commencé avec votre médecin, à continuer à faire les examens qui sont prévus pour aller vraiment au bout de la compréhension de vos difficultés actuelles.
C'est bon, Jean-René, pour vous ?
C'est bon pour moi, merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous de nous avoir contactés et très bonne journée à vous, à Niamey.
Priorité santé sur RFI.
Et on continue notre petit tour d'exploration puisque nous partons à présent au Mali. Nous sommes en ligne avec le docteur Soumaïla Diawara, néphrologue à la polyclinique Guindo, c'est à Bamako, donc au Mali. Docteur Soumaïla Diawara, bonjour.
Bonjour monsieur Igor.
Quel est le principal motif de consultation dans votre service, docteur Diawara ?
Merci pour cette question. En fait, le principal motif chez nous ici, c'est l'insuffisance rénale. Sous azimut, on peut dire comme ça. Nous recevons les patients pour insuffisance rénale à la base du bilan biologique le plus souvent, ou alors à la base de l'imagerie le plus souvent, l'échographie aussi. Mais nous constatons que chaque fois que nous recevons les patients, c'est vraiment très très tard, à un stade très tard de leur insuffisance rénale. Insuffisance rénale au Mali, principalement liée à l'hypertension artérielle et au diabète, les infections urinaires aussi. À ne pas oublier aussi la prise des médicaments traditionnels qui sont les principaux motifs vraiment de consultation ici.
Les médicaments traditionnels, ça c'est le gros danger.
Ah, c'est un gros danger, franchement. Et même au niveau des intellectuels, ça arrive le plus souvent.
Et est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation pour enfin mettre peut-être pas un terme, mais réduire ces pratiques néfastes ?
Malheureusement, pas beaucoup de campagnes de sensibilisation. Avec un groupe que nous avons organisé depuis 2-3 ans, c'est-à-dire chaque année, il y a une journée mondiale du rein. Et nous essayons à travers cette journée de faire des sensibilisations. Bon, elle ne suscite pas beaucoup d'engouement parce que c'est un truc qui est organisé par quelques médecins. En particulier, l'État n'investit pas beaucoup. Je crois que l'État n'est même pas du tout informé par l'existence de cette journée, alors que cette journée existe il y a environ quand même plus d'une dizaine d'années, qui est célébrée pratiquement dans pas mal de pays. Et c'est ce que nous essayons maintenant d'instaurer pour avoir accès à beaucoup de monde et sensibiliser les gens par rapport à l'insuffisance rénale.
Alors, professeur Corinne Starbanis, on disait que le rein était l'oublié des organes du corps humain. Mais si en plus l'État l'ignore davantage, ça va devenir compliqué.
Bah oui, alors je partage exactement finalement les mêmes préoccupations que mon collègue qu'on vient d'écouter. Merci pour cette présentation. On a vraiment un gros souci de communication. On a vraiment besoin que nos concitoyens comprennent quels sont les risques, qu'ils aient plus d'informations. Bien sûr, en France, par exemple, les médecines traditionnelles sont moins au premier plan, mais on a envie de dire que ce que les gens savent pas, souvent, c'est que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont une catégorie de médicaments qui sont très très fréquemment consommés pour les douleurs et qui sont très efficaces pour les douleurs, eh bien, si vous avez déjà des reins un petit peu malades, ça va beaucoup aggraver la situation et beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ça. Donc, même en France, on a la même difficulté où les gens ont plus facilement peut-être accès aux soins médicaux que dans certains autres pays du monde, on est confronté à cette difficulté et à la nécessité de parler des maladies rénales, de parler des risques qui sont les mêmes, hein, puisque notre collègue vient de citer l'hypertension, le diabète, je crois que c'est vrai dans tous les pays.
Ça, c'est universel, voilà.
Et on a besoin de travailler ensemble pour donner de la visibilité aux maladies rénales et faire en sorte que ces journées du rein, d'information qui existent aussi chez nous, hein, bien soit suivi par les gens et que ce soit une opportunité pour le grand public d'avoir plus d'informations sur les maladies rénales et de s'en protéger.
Docteur Soumaïla Diawara, on parle du sujet un peu tabou tout de même. Est-ce que vous pensez du coup qu'un grand nombre de femmes ne consultent pas, finalement, vous échappent ? Et là, c'est je parlais des infections urinaires notamment.
Absolument, absolument. L'infection urinaire aussi est une cause très fréquente d'insuffisance rénale. Beaucoup de femmes nous consultent peut-être très tard. Ça, c'est c'est vraiment la problématique de l'insuffisance rénale au Mali. Nous recevons vraiment des patients à un stade très tardif et on a recours finalement à la dialyse. Et la dialyse n'est pas vraiment d'accès facile dans nos pays, comme vous pouvez le constater. Donc ça pose énormément de problèmes, des IST, les infections urinaires mal traitées. À la fin, franchement, ça donne l'insuffisance rénale. Et nous, en tant que néphrologues, on se voit devant le fait accompli. Ben, on peut parler que ben, vous êtes à un stade où il faut commencer la dialyse. C'est déplorable, mais c'est comme ça que ça se passe.
C'est fou parce qu'on parle de pathologies qui sont finalement pas très difficiles à traiter si elles sont prises en compte suffisamment tôt, alors que les conséquences peuvent être dramatiques si on laisse traîner finalement.
Absolument. L'infection urinaire, le premier traitement, c'est pas médical, c'est de boire de l'eau, d'évacuer beaucoup la vessie. Mais si on laisse traîner et puis comme les médicaments sont aussi à portée de main, on peut avoir tout à la pharmacie, même souvent sans ordonnance, donc des traitements inachevés, des traitements qui ne sont pas forcément les traitements adaptés. Donc, à un moment donné, l'infection devient chronique et le rein est atteint. Voilà. C'est un peu déplorable comme situation. Mais je crois que, comme a dit ma collègue, il faut de la sensibilisation. Il faut que cette sensibilisation soit portée à tous les niveaux pour qu'on puisse vraiment protéger nos concitoyens. Voilà.
Bon, ben écoutez, ça sera le message, le cri du cœur, et j'espère qu'il sera entendu en plus haut lieu. Je vous en remercie infiniment, docteur Soumeila Diawara. Je rappelle que vous êtes néphrologue à la polyclinique Guindo à Bamako, au Mali. Très bonne journée à vous.
RFI à Bamako, 98.5 FM.
Professeur Corinne Starbanis, beaucoup de questions reviennent sur la maladie polykystique, qui est donc très fréquente. Hein. Je crois que 8% des insuffisances rénales chroniques sont dues à cette maladie. Concrètement, de quoi s'agit-il? À quoi est-ce dû? Et puis, quels sont les traitements?
Alors, ce qu'on appelle la polykystose rénale, c'est en effet la maladie génétique la plus fréquente, en tout cas la maladie qui amène le plus fréquemment les gens à avoir besoin de dialyse en France et dans beaucoup de pays du monde. Et c'est une maladie qui est liée à une anomalie sur un gène qu'on connaît, un ou plusieurs gènes d'ailleurs, parce que c'est assez complexe. Donc c'est une maladie qui va souvent se transmettre dans la famille, pas obligatoirement, hein. Ça peut apparaître brutalement chez une personne dans la famille, mais souvent on a des parents ou des grands-parents ou des oncles et des tantes qui avaient aussi des kystes. C'est une maladie qui se développe progressivement avec le temps, qui souvent... Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les reins qui normalement peuvent contenir un ou deux ou trois kystes sans que ce soit une maladie, là on a beaucoup de kystes. Et la caractéristique de ces kystes, c'est qu'ils grossissent et qu'ils font grossir la taille des reins. Donc en fait, pour parler de polykystose, il faut avoir constaté sur une échographie ou une imagerie que les reins sont augmentés de taille et qu'ils ont augmenté de taille parce qu'ils contiennent beaucoup de kystes. Et du coup, évidemment, avec le temps, ils perdent leur capacité à fonctionner normalement. Et au décours du temps, on va progressivement avoir une perte de fonction rénale qui peut conduire évidemment à avoir besoin d'une dialyse ou d'une greffe. Donc c'est très important de le dépister. Si on sait que dans sa famille, quelqu'un a eu une polykystose, ce qui encore une fois est très différent d'avoir seulement quelques kystes. Hein, pour vraiment avoir une maladie liée aux kystes, il faut avoir les deux reins plein de kystes. Et parfois, il y a aussi des kystes dans d'autres organes, dans le pancréas ou dans d'autres organes. Donc, il faut vraiment voir un spécialiste qui va pouvoir faire ce diagnostic. Et c'est très important de dépister cette maladie précocement parce qu'on peut faire des choses, évidemment, pour ralentir, maintenir la fonction rénale le plus longtemps possible.
Eh bien, écoutez, merci pour ces précisions. J'espère que Mamadou, qui souhaitait poser cette question justement à Bamako, au Mali, a pu vous écouter. On va maintenant prendre une autre auditrice, mais c'est sous forme de note vocale. C'est Natacha de Dakar, au Sénégal.
Bonjour Igor et bonjour aux auditeurs de Priorité Santé. Moi, je m'appelle Natacha, j'ai 36 ans. On m'a diagnostiqué des calculs rénaux en 2019. J'avais des fortes douleurs au niveau du dos Et un jour, j'ai eu très mal en urinant. Et après avoir fait des analyses, on m'a fait une échographie qui a montré que j'avais plein de petits calculs au niveau des deux reins. Et je faisais également des infections à plusieurs reprises. Les médecins m'avaient conseillé de boire beaucoup d'eau. Et après, à un moment donné, j'avais su éliminer plusieurs calculs. Et le reste qui était là, on m'a demandé de prendre un produit. Et après, ça allait bien. Et ça fait quelques jours, j'ai remarqué que j'ai un peu mal à uriner et j'ai fait des examens d'urine au laboratoire, il n'y avait rien du tout. Alors j'ai des petites questions parce que j'ai continué à m'inquiéter sur l'état des mes reins. Est-ce que ces calculs n'auront pas un effet néfaste sur mes reins? Est-ce que je pourrai encore refaire des calculs rénaux? Et aussi, on m'a conseillé de boire, est-ce que boire au-delà de 3 à 4 litres par jour, ce n'est pas aussi mauvais pour la santé. Mais aussi, je me demande, est-ce que mon poids corporel, parce que j'ai 1,57 m et je pèse 80 kilos, est-ce que ce n'est pas ça la cause de mes calculs?
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à Natacha, professeur Isnarbanis?
Alors, c'est très intéressant ce que partage Natacha. Alors, c'est très important de parler des calculs. Les calculs, ce sont des cailloux qui peuvent arriver dans les reins, bien entendu, ce n'est pas normal. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on a des cailloux dans les reins, ben, on les élimine spontanément, ou bien on a recours à de la chirurgie ou à de l'endoscopie, enfin à des techniques médicales pour enlever les calculs. Mais ce qui est très dommage, c'est que la plupart du temps, ça s'arrête là. Une fois qu'on a débarrassé les gens du calcul ou que l'épisode de colique néphrétique est résolutif, on a plus de douleur, on considère que c'est fini. Or, c'est que le début de l'histoire. Pourquoi c'est le début de l'histoire? C'est seulement parce qu'on doit absolument, surtout chez une personne jeune comme Natacha qui a 36 ans, il y a certainement une raison précise pour laquelle elle fait des calculs et il faut la trouver. Et donc pour trouver pourquoi elle fait des calculs, évidemment, c'est complexe. C'est souvent les néphrologues qui font les études, les analyses d'urine, les examens nécessaires pour essayer de comprendre quelle est la raison pour laquelle on fabrique des calculs. Et c'est seulement quand on aura compris cette raison qu'on pourra vraiment proposer à une personne comme Natacha de peut-être changer des choses dans son alimentation, de certainement changer sa façon de boire et peut-être des traitements beaucoup plus spécifiques, une fois qu'on aura un diagnostic précis, pour faire en sorte qu'elle ne refabrique plus de calculs. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Et on peut y arriver si tant est que on puisse, avec un interlocuteur médical, aller jusqu'au diagnostic. Alors peut-être plusieurs choses simples. La première, c'est que c'est toujours intéressant d'essayer de conserver le caillou. Le caillou, si on peut le récupérer, le calcul, la petite pierre qu'on va éliminer, si on peut l'analyser, ça donne beaucoup d'informations sur la raison pour laquelle on fait des calculs. Donc, c'est bien de pouvoir conserver cette pièce à conviction, on va dire, de pouvoir la donner au médecin. La deuxième chose, c'est qu'en attendant qu'on ait avancé sur le diagnostic, c'est toujours intéressant de manger mieux, de pas manger trop salé, de pas être en surpoids, et surtout, c'est toujours très intéressant d'augmenter la quantité de boissons jusqu'à éventuellement entre 2 et 4 litres par jour. Alors 4 litres, c'est vraiment beaucoup. Mais ça dépend, c'est toujours pareil. Hein, ça dépend si on vit comme Natacha au Sénégal et qu'il fait très chaud. Sans doute que c'est légitime de boire jusqu'à 3 ou 4 litres par jour. Mais surtout, ce qui est important de dire, c'est qu'il faut répartir ces boissons. C'est-à-dire, il s'agit pas de se lever le matin et de boire 3 bols de thé pour faire à peu près 1 litre pour se dire qu'après on est débarrassé pour la matinée. Si on veut diminuer le risque de refabriquer des calculs, il faut diluer les urines en permanence. Donc il va falloir plutôt boire 1 ou 2 verres toutes les heures, répartir les boissons toute la journée, même boire le soir, boire la nuit. Si on se lève pour faire pipi, il faudra boire la nuit pour pouvoir diluer les urines, aussi la nuit pour essayer de faire en sorte qu'elles soient le plus claires possible, les urines. À chaque fois qu'on va faire pipi, il suffit de regarder la couleur des urines, on en a parlé tout à l'heure, et faire en sorte que les urines soient le plus claires possible. Parce que ça, quelle que soit la raison précise pour laquelle Natacha fait des calculs, le fait de diluer les urines va être un élément majeur qui va diminuer le risque de récidive de calculs dans les reins.
Merci infiniment, professeur Corinne Isnarbanis, d'être venue répondre à toutes ces questions de nos auditeurs. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Miction Impossible. Prenez soin de vos reins, ils vous le rendront bien aux éditions du Rocher.
Priorité santé sur RFI.
Eh oui, priorité santé, suite et fin. Nous sommes en ligne avec le professeur Jean-Baptiste Nikiema, chef d'équipe sur les médicaments, technologies, infrastructures et équipements de santé au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Alors, un panel d'experts vient d'approuver le protocole des essais cliniques de phytothérapie pour la Covid-19. Objectif, avoir des données scientifiques fiables sur certains produits à base de plantes utilisées dans la médecine traditionnelle. Car, souvenez-vous, depuis 6 mois, avec la survenue de la pandémie de Covid-19, on a entendu parler du Covid organique, c'est un sirop à base d'artémisinine prescrit à Madagascar. On a également entendu parler d'apivirine, un produit qui était censé traiter les malades du sida à l'origine, et j'en passe. Mais jusqu'à présent, aucune étude scientifique ne prouve l'efficacité de ces produits, ce qui a provoqué polémique et confusion. Ces essais cliniques, professeur, c'est une façon finalement de mettre fin à un débat stérile?
Absolument. C'est une façon de rendre les choses beaucoup plus claires et concrètes sur le plan scientifique, de faire parler la science une bonne fois pour toutes.
Et alors, quelles seront les plantes qui seront étudiées, professeur?
Alors, pour l'instant, nous menons des enquêtes dans les pays pour collecter des informations sur les plantes qui pourraient être intéressantes, parce que ce n'est pas tout ce qui est proposé qui peut faire l'objet d'essais cliniques. Parce qu'au cours des essais cliniques, il faut assurer la sécurité des patients. Il faut vérifier que les informations déjà disponibles permettent d'avoir une certaine idée des chances d'efficacité et connaître parfaitement aussi la qualité des produits. Et cela n'est pas toujours vérifié, donc. Les pays auront à sélectionner les recettes qui peuvent répondre à un certain nombre de critères qui peuvent être utilisés pour les essais cliniques. Donc voilà, c'est à cette étape-là qu'on est. Donc je ne peux pas encore vous dire les plantes qui seront sélectionnées par les pays pour les essais cliniques, parce que ces essais cliniques se dérouleront dans les pays par des institutions de recherche qui ont la qualification, les compétences pour le faire.
On imagine que ça va prendre du temps, professeur Nikiema. Est-ce qu'il n'est pas un peu tard? Est-ce que ces essais n'arrivent pas un peu tardivement? Brièvement.
Bien entendu, il a été un peu difficile de mettre la machine en route, mais ce n'est pas trop tard, parce que la mécanique doit être bien huilée pour bien fonctionner, et nous pensons que en mettant toute l'expertise de l'Afrique ensemble, cela permet d'aller très vite, parce qu'on peut commencer très tôt et aller lentement, mais en commençant avec les bonnes bases, on peut aller très vite et avec des résultats incontestables.
Et donc, si ces essais sont concluants, l'OMS recommandera une fabrication locale à grande échelle et rapide. Vous y croyez? Très brièvement.
Nous y croyons et nous savons qu'il y a la capacité locale pour les fabriquer. Nous avons l'expertise. Et l'OMS encourage la production locale aussi. Donc, ça, c'est ce que nous souhaitons pour le continent. Et nous avons bonne foi que cela puisse se réaliser.
Eh bien, écoutez, merci infiniment, professeur Jean-Baptiste Nikiema. Et puis, évidemment, nous suivrons le résultat de ces essais. C'est la fin de cette émission, vous l'avez compris. Une émission préparée par Ophélie Lassène et Juliette Brault. À la technique et à la réalisation, c'était Didier Bleu et Olivier Roux. Demain, nous parlerons de contraception. En attendant, passez tous une très, très bonne journée. Surtout, surtout, prenez soin de vous.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.